France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, nous recevons un invité qui a fait de l'humour, du décalage et de la pop culture son terrain de jeu. Comédien, scénariste, réalisateur, Simon Astier est passé par le royaume de Kaamelott. Il a créé un univers de super-héros pas comme les autres avec HeroCorp et aujourd'hui, il signe un nouveau chapitre de sa carrière au cinéma. Son nouveau film, Mac Walter, sort un projet ambitieux, drôle et un peu fou qui revisite le mythe de la comédie d'action à la française. Un défi qui colle parfaitement à son parcours, lui qui aime casser les codes et inventer ses propres mondes. Il est aussi un passionné de musique, de BD, de culture geek, bref, un invité qui correspond parfaitement à l'esprit de cette émission. Ce soir, nous allons parler cinéma, écriture, super pouvoir, rap, mais surtout, nous allons faire connaissance avec Simon Astier. C'est parti pour une heure à la régulière.
France Inter. À la régulière. Midi Maizy.
Simon Astier, bonsoir.
Mais bonsoir.
Comment ça va?
Mais ça va très très bien, un peu stressé comme à chaque fois qu'on sort quelque chose. Donc on pense qu'on stresse pas et puis en fait le stress arrive et vous ne pensez plus qu'à ça. Je croyais en être libéré là et absolument pas. Donc ça va, mais stressé.
Quand on parle de stress, c'est parce que Mac Walter sort donc, film dont tu es le réalisateur et aussi co-scénariste,
oui,
on peut le dire. Ça sort sur Prime Video et on peut en écouter un extrait de la bande-annonce tout de suite.
Mac Walter est aujourd'hui traqué par les polices du monde entier.
Vous savez ce que je crois, bah, t'es pas français, mais tant pis.
Je crois que quelqu'un commet tous ces crimes en se faisant passer pour vous.
Si vous voulez retrouver votre vie d'avant, il va falloir aller la chercher. Trouver qui est le vrai coupable
et vous redeviendrez le héros que tout le monde admirait.
Vous appelez désormais Wesley Davidson, 29 ans, vous avez deux enfants dont l'un est bipolaire.
Je peux les voir?
Non.
C'est sûr qu'il nous allait faire un indice. C'est l'agent secret le moins secret du monde.
Dès que tu seras mort, je pourrai enfin me...
Je suis Mac Walter. Tout le monde me connaît.
Mac Walter!
Bah alors comme ça, on est tous morts? La honte.
Bande annonce donc de Mac Walter, le nouveau film de Simon Astier, avec évidemment Yvick Mister V dans le rôle principal. Et Mac Walter, c'est un personnage donc que Yvick a déjà créé sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos dans lesquelles il mettait en scène Mac Walter. Et là, c'est le passage au long format.
Ouais.
Comment, toi, t'es arrivé sur ce projet?
Notre producteur, Jonathan Cohen, enfin ils sont trois, hein, il y a Jonathan, Benjamin Belcourt et Jean-Toussaint Bernard.
Jonathan Cohen qui fait un caméo dans le film, on peut le dire.
En fait, Jonathan qui produit le film est un vieil ami de presque 18 ans maintenant. On a fait plein de bêtises ensemble dans sa première série, dans ma première série à moi. Et Yvick est donc arrivé avec cette envie-là. Et au bout d'un moment, il a dit « rencontre Simon » parce que je pense que vous avez des points communs. Et effectivement, on s'est rencontrés. On est tous les deux très pudiques et à la fois très solitaires dans nos créations. Mais on savait que l'alliance des deux allait pouvoir mener ce projet jusqu'à son terme. On a tous les deux exploré la fiction de notre manière, un peu sur des chemins de traverse.
Ouais.
Moi, j'ai créé des séries sans argent, mais avec une liberté artistique totale sur des petites chaînes. Yvick, il a masterisé YouTube à lui tout seul. Et en fait, on a grandi comme ça dans cette liberté de création totale. Avec des audiences qui viennent nous voir, qui nous choisissent finalement, plutôt que moi en tout cas passer sur les grandes chaînes. Et donc ça nous a créé une forme de singularité. On a les mêmes références cinéma. On a été bercé par le cinéma des années 90 américain, un certain cinéma qui n'existe plus maintenant, mais voilà, on a toujours rendu hommage en tout cas à ce genre d'atmosphère là. Et c'est vrai qu'on a cette espèce de cousinage qu'on a tout de suite repéré. Et en fait moi maintenant je me rends compte passé 40 ans que la création c'est quelque chose qui n'est... Ça ne s'arrêtera jamais de grandir en nous et de se modifier en nous, et que finalement de s'allier avec des gens avec qui on a et des points communs et aussi une complémentarité ne fait que rendre les projets plus intéressants, plus grands, plus forts.
Quand tu parles d'un cinéma qui n'existe plus, notamment dans les années 90, je pense que tu notamment fait référence à une certaine forme de blockbuster, de comédie d'action peut-être, qui était effectivement très très populaire à l'époque. C'était quoi les influences sur Mac Walter? Parce que moi, j'y vois évidemment certaines comédies d'action classiques, on pourra en reparler après, mais je sais pas, du Flic de Beverly Hills, ça, Die Hard, etc., ce genre de film, mais aussi une forme de catégorie de comédie. Évidemment, en France, elle était de la peur, mais aux États-Unis, les Zaz, tous ces films comme Les Yati, Un pilote dans l'avion, etc., dont d'ailleurs il y a un nouveau opus qui est sorti avec Liam Neeson dans le rôle titre. Est-ce que ça aussi, c'est, je pense que c'est un peu une combinaison de ces deux genres, à la fois la parodie et la comédie d'action marrante, mais aussi qui peut aussi se prendre au sérieux.
Ben oui, oui, c'est exactement ça. Les Zaz, en tout cas, moi, c'est Y a-t-il un pilote, celui que je connais par cœur, mais Les Zaz, c'est énormément de films sur des époques différentes, avec des combos différents, mais c'est une forme de comédie qui avait cette espèce de liberté totale qui a peut-être moins aujourd'hui. Ouais. Je parle aussi d'un cinéma américain à l'époque où Bruce Willis sauvait le monde à lui tout seul et personne questionnait ce truc-là.
Ne me parle pas de ça parce que j'ai beaucoup de nostalgie.
Ah ben
par rapport
aussi,
à Bruce Willis qui sauve le monde.
Vraiment, j'ai un amour inconditionnel. Mais en fait, c'était quand même un monde où il y avait ce genre de choses-là dans les films qu'on racontait et on les revisite avec amour, avec tendresse et à la fois aussi avec une petite insolence de se dire bon, le monde a quand même évolué, c'est plus trop comme ça que ça se passe, et on s'en amuse, on joue avec les codes. Et effectivement, le film des nuls, La Cité de la Peur, est pour nous presque une bible, parce que c'est une comédie, et les comédies vieillissent pas forcément très bien, c'est une comédie qui a vieilli à la perfection. On regarde ça aujourd'hui, et toutes les vannes tombent dedans, les vannes sont millimétrées, c'est une leçon de comédie, et en plus de comédie qui mêle le genre. Et c'est vrai que moi j'ai toujours aimé ça dans la comédie, c'est quand la comédie n'est pas l'essentiel de ce qu'on raconte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une histoire tendue, avec des rebonds tout le temps. On avance, nous, en tant que spectateurs, et puis d'un coup, la comédie vient se mettre en travers du chemin. Elle nous surprend, et parce que sinon, c'est une suite de blagues, et je pense que c'est un peu indigeste. Mmh. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses, et même aujourd'hui, on a encore d'autres rêves, comme moi j'ai rematé au microscope Kingsman aussi par exemple, tu vois, qui réinterprète l'action. Enfin voilà, c'est un mélange de plein de trucs. En tout cas, c'est un hommage à tout un cinéma qui nous a fait rêver et qu'on avait envie de voir.
Quand on dit comédie d'action, évidemment, il y a action, donc ça veut dire effets spéciaux. Mmh. Et donc, on parlait de Mr. V qui joue le rôle titre et qui a créé ce personnage il y a quelques années. Et je l'ai croisé il y a quelques jours, et je lui disais, écoute, je sais pas quel est le budget du film, mais en tout cas, c'est un budget qui est pas élevé pour ce genre, pour ce genre de cinéma. Et il m'a dit ça, il m'a dit, mais, parce que moi je lui ai dit, mais franchement, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent dans le film, que les scènes d'action sont bien chorégraphiées, que ça fait pas cheap. Il m'a dit, ça, c'est Simon. Donc il m'a dit, c'est la force de Simon Astier, c'est de réussir à faire des choses qui ont de l'allure avec peu de moyens. Est-ce que c'est là aussi que toi, t'as joué un rôle ?
Oui, après le risque, c'est qu'on m'appelle non plus que pour ça et qu'on me donne plus de sous pour faire des films. Mais en tout cas, comme je te disais au tout début, en fait, le fait d'avoir eu ces espèces d'espaces de liberté, de laboratoire de création,
avec peu de moyens,
peu de moyens, on fait que d'un coup, ça nous a poussé à être inventifs, ça nous a poussé à suggérer, ça nous a poussé à en gros, mettre de la mise en scène partout, à tous les endroits de ce qu'on racontait. Et je pense que c'est aussi une très bonne école pour apprendre à savoir utiliser chaque euro. Et puis ça va aussi avec une équipe, c'est avec une équipe avec qui je travaille depuis longtemps, qui me suit, qui a justement fait les projets fauchés, qui a fait les projets avec plus d'argent. Et en fait, on a plein d'heures de vol ensemble. Ça va avec de la préparation, ça va avec un acteur principal qui connaît son texte au cordeau, qui le week-end s'entraîne pour ses combats, pour connaître les chorégraphies par cœur. En fait, c'est tout un orchestre qui joue ensemble et qui doit s'accorder. Et l'avantage sur McWalter, c'est que c'est un film tellement défouloir, c'est un film tellement agréable à faire et à voir, évidemment, mais avant tout à faire pour nous, que tous les gens qui sont là le font parce qu'ils ont envie d'être là. Donc, tout le monde a envie de donner son maximum. Et ça, j'avoue que on voit la différence. Moi, j'ai toujours aimé appeler des gens en disant « Venez, ça va être cool ». Voilà. Après, on parle de thunes, après, on parle de plein de choses, mais venez, là, il y a une expérience à mener tous ensemble qui est cool, et c'est ça, en fait, le cinéma. C'est vraiment tous s'accorder pour faire des choses à la même seconde et que ça soit gracieux, quoi. Donc, je pense qu'un des secrets, c'est d'avoir expérimenté plein de choses et d'être tous à son poste en ayant envie d'être là.
Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est la même chose, finalement, de passer d'une série, donc d'épisodes, à un long métrage? Est-ce que c'est une
démarche intellectuelle différente, c'est plus compliqué ou pas forcément?
C'est presque un autre métier. Okay. Moi, j'avoue, j'ai eu très peur du cinéma parce que j'ai grandi devant le cinéma.
Ta génération, on avait un peu moins de respect pour les séries entre guillemets. C'est vrai que l'âge d'or des séries, il arrivait quand t'étais adolescent, même adulte en fait.
Ouais, c'est la même génération. On a eu aussi les premières. On a eu des X-Files, on a eu des Friends qui sont devenus.
Mais c'était pas considéré comme le cinéma à l'époque, j'ai l'impression.
C'était en tout cas pas devenu un art, parce que j'ai l'impression que c'est un vaste communicant. C'est-à-dire que quand le cinéma perd sa créativité, c'est la série qui la récupère et inversement. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on est quand même dans une ère en ce moment où les séries ont récupéré beaucoup d'inventivité et de créativité quand le cinéma, avec des budgets aussi conséquents, doivent plaire au plus grand nombre et se posent peut-être moins de questions. Mais c'est un autre exercice. Moi, j'avais très très peur, j'étais extrêmement intimidé, puis je me disais, mais attends, il faut quand même que je fasse un film. Mais est-ce que c'est vraiment le bon? Est-ce qu'il faut y aller là-dessus? On me propose des choses, j'ai la chance de ça, je fais ce métier depuis 20 ans moi, donc ça fait des années qu'on me propose des trucs et j'ai toujours un pied dedans, un pied dehors, et puis là d'un coup McWalter arrive et je me dis, mais non, en fait j'ai attendu pour ça parce que là, c'est dans mon parcours, c'est comme si d'un coup je m'étais entraîné pendant 15 ans pour le faire et que je suis prêt, en fait, je suis prêt et puis je pense que j'ai aussi suffisamment vécu entre guillemets, pour me dire, en fait je suis prêt et je suis prêt à collaborer avec Yvick, à collaborer avec mes producteurs, à collaborer avec tout le monde pour que cette œuvre-là dont la promesse est avant tout d'être
fun,
drôle quoi, ce qui est le truc qui met le plus de pression au monde, fait que cette création collective-là, j'étais prête à la mener là. Et en fait, une série, ça correspondait moi à ma personnalité, qui est assez angoissée, assez flippée, assez à me tordre le cerveau tout le temps. Il y a quelque chose qui ne te laisse pas le choix dans une série, c'est que tout doit être fait pour hier. Et il faut pas finir. Donc ça enlève une angoisse aussi. Au contraire, il faut toujours se dire, on vit dans un monde que je vous ai décrit au début, mais à la fin de la saison, il y a une pièce secrète qui est là depuis le début, que vous connaissez pas, et c'est pas maintenant que vous allez la voir pour que les gens reviennent te voir après, tu vois. Donc en fait, tu finis pas, t'as pas l'angoisse de finir, alors qu'un film, ça reste quand même un point de vue sur des trucs de la vie. Donc ça veut dire qu'il faut qu'au début, le héros soit en manque de plein de choses, qu'il traverse une épreuve, et qu'à la fin, il soit plus fort de ça. Donc en termes ça raconte ton point de vue sur ça, ça raconte un point de vue sociétal sur ça, donc c'est notre écriture qui met un peu plus la pression. Mais j'avoue que de passer au film, là, moi, m'a ouvert une espèce de porte de plaisir et de un truc addictif. Je sais pourquoi j'ai mis du temps à y arriver, parce que je voulais le vivre comme ça. Et l'avantage qu'on a avec un film, c'est qu'on a tout devant les yeux. Quand tu prépares un film, tu as tout dans le champ de vision. Dans une série, t'as plein d'épisodes, plein d'arcs narratifs, plein de trucs qui se passent avant, après, tu dépends de plein de choses, tu dois aller ailleurs avant. Donc en fait, tu te focuses sur des bouts de choses, donc tu vas très vite. Oui. Et ça crée une espèce de dynamique de création qui est super intéressante, mais qui ne te permet pas, comme dans un film, de pouvoir avoir l'œil, l'attention sur chaque détail.
L'image globale, the big picture.
Exactement.
On parlait donc, Simon Astier était avec nous pour la sortie de McWalter. On parlait d'Amérique. On va tout de suite écouter un morceau de rap américain. Une rencontre de haut niveau. D'un côté, Clips, le duo culte du rap américain de Virginie, exactement. Et de l'autre, Kendrick Lamar pour le morceau Chains and Whips. Un morceau tiré du dernier album des Clips, Let God Sort Them Out, sorti au mois de juillet dernier, soit 15 ans après la précédente galette des frères Pusha T et Malice. Un album qui a fait beaucoup de bien aux amateurs de rap.
Nigga and ice my bitch. Beat the system with chains and whips.
This is culturally inappropriate.
You run from the spirit of repossession. Too much enamel covers your necklace. I buy bitches, you buy them sections. You buy watches, I buy collections. Misery's fueling your aggression. Jealousy's turned into obsession. Reality TV is mud wrestling. Some sign checks I know better than. Beware of my name that there's delicate. You know I know where you're delicate. Crush you to pieces, I hum a breath of it. I will close your heaven for the hell of it. You think it'd be valor amongst veterans. I'm watching your fame escape relevance. We all in a room, but here's the elephant. You chasing a feature out of your element. And those lab diamonds under inspection. The question marks block your blessings. It's no tombstones in the desert.
I know by now you get the message. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. It don't take much to put two and two. Your lucky streak is now losing you. Money's dried up like a cuticle. You're gasping for air now, it's beautiful. John 10:10, that's my usual. Mamas is falling out in funerals. And bombing blows, they now fewing you. They never find the guns, but the sewers do. Bubbles was sick, he need medicine. Brought him back to life, now he dead again. Richard don't make watches for presidents. Just a million trapped between skeletons. This the darkest that I ever been. The diamonds make you taste peppermint. You ain't thriving the snow like it's the Revenant. And send orders back down to keep shoveling. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. I'm not the candidate to vibe with. I don't fuck with the kumbaya shit. All that talent must be God sent. I send your ass back to the cosmics. The heavy jeans like Genovese. I drop your pentagon to show up at your gender reveal. And tell them give me mine. I son niggas, I am the general. Wear my gin and juice. Every song in the book of Genesis. Let the sonics boom. Niggas want the tea on me. Well, here's the ginger root. I generate residuals, bitch. Get off my genitals. They say I couldn't reach Gen Z. You fucking dickheads. You must be full of that ginseng. Here comes the jinx, yeah. They genetics been synthetic. Screaming they genius. A finger wave, they all fall. Niggas is Jenga. God gave me light, a good year full of free will. Trump card, tell me not to spare your life.
Motherfucker. You know we get calling. You look side to side like what did they say? And they ignore his voice and then you realize that the devil is talking to you.
Pusha T, Malice, Kendrick Lamar, Chains and Whips.
France Inter. Mehdi Maizi. À la régulière.
Nous sommes avec Simon Astier pour la sortie de Mac Walter sur Prime Video. On va évidemment continuer à parler du film et de cinéma globalement, mais je voulais qu'on parle musique. J'ai un questionnaire musique pour toi, parce que tu as un lien avec la musique. Tu aimes la musique?
Oui, j'aime la musique. Je travaille en musique. Quand j'écris, je mets de la musique. Je mets beaucoup trop de musique dans mes films. Tout le monde me le reproche dans mes équipes, mais j'adore ça. Ouais.
Même si tu as déjà joué le rôle d'un personnage qui détestait le rap.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe, personnellement, je trouve que vos ateliers de musique sont une très bonne idée. Vraiment, hein?
Alors, quel est le problème?
Ben, le problème, c'est que le jazz n'a pas de succès chez nos élèves.
Vous n'allez pas encore me parler de rap, là?
Ben, Philippe, je ne comprends pas ce qui vous dérange quand on parle de ce style de musique.
C'est pas un style de musique? Bon, écoutez, même si je fais l'effort de mettre de côté le fait que je trouve que le rap, c'est de la merde, ça reste une activité qui ne demande aucun travail. Et vous savez, vous, mieux que tout le monde ici, que c'est exactement l'inverse de ce que je compte leur inculquer.
Ce qui m'étonne, c'est de découvrir un jeune comme vous avec des idées dessus.
Bon, Marlène, alors ?
Bon, j'aurais au moins essayé, hein.
Donc c'est un extrait, c'est un personnage évidemment, ouais. Extrait d'une vidéo qui s'appelle Un monde sans rap, qui est disponible sur YouTube.
Et qui est réalisé par Anis Israeli,
exactement.
Que j'adore.
Hein, exactement, très fort, formidable. Absolument. Dans lequel tu joues donc ce personnage de jazz qui n'aime pas le rap, mais je crois que dans la vie, donc t'aimes bien la musique, t'aimes aussi bien le rap d'ailleurs.
Oui, oui, bien sûr.
Et donc je te propose...
Mais moi je suis un vieux, hein, pardon.
Mais moi aussi.
Ok, très bien, ça me rassure. Ça me rassure.
Ton groupe de rap favori?
C'est NTM, hein, pardon.
J'aurais pensé que t'aurais dit...
I am
plutôt, mais
en fait
les deux sont des bonnes réponses.
Mais parce qu'il faut choisir, mais parce que j'ai vraiment grandi avec avec ça. Avant de jouer sur scène, je mets toujours du NTM.
T'as un morceau qui te motive particulièrement d'NTM? Est-ce qu'il y en a un ou un album?
Je crois que non, pas forcément.
Okay.
Je crois que j'ai ma playlist qui va vraiment fouiller chez eux.
Ouais.
Je suis toujours touché par les trucs qui m'ont touché étant enfant et jeune. C'est mes premiers amours et qui restent les plus ardents. Et c'est vrai qu'ils m'accompagnent depuis longtemps, ces gens.
Est-ce qu'on, ça c'est une question qui sort un peu du cas de cette interview.
Tout n'est pas si facile, peut-être quand même.
Ah, magnifique. Qui est sur Paris sous les bombes, si je dis pas de bêtises.
Mais en fait, je dis ça parce que ça me revient. Mais en fait, non, je peux tout écouter chez eux. Même l'espèce d'album qu'ils ont fait derrière avec leur label où ils refont leur propre titre.
Le clash avec BOSS
tout ça rentre dans ma routine.
Tu parlais justement de l'enfance. Est-ce que tu penses, c'est une autre question, je sors, parce que c'est quelque chose qui me hante, qu'on peut, dans la vie, être aussi impressionné par une œuvre artistique que quand on a eu, quand on était enfant. J'ai l'impression que finalement, les plus grands chocs, qu'ils soient musicaux, cinématographiques, artistiques, on les a quand on a entre 10 et 15, 16 ans. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui t'ont autant marqué, autant impressionné que quand t'étais gamin?
Bah, je crois que j'ai développé une théorie là-dessus que je vais te faire vraiment de manière extrêmement courte. C'est qu'en fait, je pensais que pas, et j'ai revu des films qui m'ont marqué, et pour les montrer à mon fils, et j'ai déchanté sur plein de choses.
Ah oui, ça oui.
Mais en fait, ce qui m'a marqué, moi, c'est l'atmosphère. Ça veut dire que, par exemple, dans Ghostbusters, je me souviens des fringues de Sigourney Weaver, qui étaient les mêmes que ma mère. Donc en fait, c'est plus des voyages dans le temps qui me ramènent à des époques où il y a eu des trucs qui se sont construits chez moi. Je pense que je suis nostalgique de ça. Mais ça, c'est très récent. Et je pense que c'est depuis que j'ai un fils qui est grand. Ouais. Et puis surtout depuis que j'ai passé mes 40 piges où finalement je me remets à avoir des chocs. Okay. D'autres chocs.
Plus récents, sur des choses plus récentes.
Voilà, comme okay. Si en fait j'avais presque passé une espèce de première moitié, c'est sordide ce que je dis, mais que je me suis rebooté un peu au niveau de la sensibilité, et en fait j'ai toujours du respect, de l'affection pour les trucs qui m'ont marqué, mais je les porte beaucoup plus grandes.
Tu ne les idéalises pas, ok.
Voilà, exactement, à ce qui m'arrive maintenant.
Est-ce qu'il y a une BO d'un film qui t'a marqué à
vie ? I Am Legend.
Ah, avec Will Smith?
Ouais, de James Newton Howard.
Okay.
Ça a été souvent une BO que je donnais à mes compositeurs en
référence.
En ref, ouais. Il y a des montées de cordes, juste de cordes, qui sont assez, assez folles. La BO d'Incassable aussi, de l'ouverture d'Incassable, où en gros ça part en symphonique avec une batterie, juste pour le générique.
Incassable, c'est encore Bruce Willis, hein.
Oui,
qui sauve.
Exactement.
qui est un héros.
C'est de M. Night Shyamalan.
Exactement.
Qui est pour moi un de ses plus grands films.
Ouais, je suis
très sensible à ces deux BO-là.
Est-ce qu'il y a un concert auquel t'as assisté dans ta vie qui était particulièrement génial?
Wolfpack.
Ok.
Aux arènes de Vienne.
Qu'est-ce qui était fou
l'année dernière? C'est fou de voir à quel point il y a Wolfpack et il y a James Brown aussi. Mais il y a aussi Tété, qui est un ami en plus, que j'ai vu tenir un Olympia tout seul. Avec une de la grâce pure. Mais c'est vrai que Wolfpack, il y a quelque chose, j'adore ces gars, j'adore le fait qu'ils aient leur groupe et leur propre carrière solo en dehors. Et ce que j'ai aimé, c'est comment t'arrives à avoir autant de technique, à être des monstres de technique, et à être autant à l'aise à savoir jouer ensemble, au service d'un ensemble. Mais j'ai jamais ressenti un truc où je me dis, mais là, ce qui se passe, c'est vraiment virtuose.
Alors, on est avec Simon Astier pour parler de Mac Walter, et tout de suite, on continue à parler de cinéma. Alors, tu n'as pas commencé ta carrière avec Mac Walter.
Non.
On l'a dit. Il y a eu plusieurs choses, et dans ton palmarès, il y a notamment Hero Corp, qui...
Oui.
Est une série vraiment qui, aujourd'hui, a cette figure de culte, en fait, on peut le dire. C'est, pour les personnes qui l'ont vu, en tout cas, il y a vraiment un rapport très particulier avec cette série, avec du recul. Est-ce que tu réalises justement ça, que c'est une série qui a une valeur particulière pour... Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'Hero Corp, et il y a toute une partie des gens aussi pour qui c'est ultime. C'est un peu cette ambivalence-là entre quelque chose qui n'est pas grand public, mais qui est culte. Je crois que c'est la définition du culte, d'ailleurs, quand une partie des gens t'adore.
Mais ça résume, je pense, là où j'ai aimé aussi me mettre dans ce métier pendant longtemps. Moi, je suis dans une famille où il y a plein de gens qui font plein de trucs et tout ça. Et en fait, j'ai aimé prendre cette place-là, je crois. Hero Corp, c'était, et je peux me targuer de ça, c'était la première série hors chaîne hertzienne de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment de TF1 à M6, et puis d'un coup, on était la première fiction hors de ces grandes chaînes-là. Donc en fait, c'est la première fois que on pouvait faire un pas de côté pour aller faire, et je pense que déjà les gens ont aimé pouvoir avoir accès à un truc qui soit un peu hors des sentiers battus. Et je l'ai fait avec énormément de cœur, avec mes copains. J'ai tout appris sur cette série. J'ai failli mourir deux fois. Enfin, ça a été vraiment très initiatique comme parcours, on va dire, humain et professionnel. Et effectivement, comme tu dis, on a fait on a rempli des salles de 15 000 personnes au Comic-Con. Moi, pour moi, ça reste une des plus grandes aventures de ma vie, tout confondu. Mmh. Effectivement, comment est-ce que d'un coup on arrive à toucher les gens en ne cherchant pas à le faire, en étant juste soi-même, en racontant ses peurs, ses démons, dans un monde magique. Ça, c'est vraiment toujours ce que je fais, en fait, je crois que depuis que je fais ce métier, sans forcément m'en rendre compte à chaque fois, c'est que je parle de trucs extrêmement humains, vraiment de moi, ma quête de légitimité, ma quête de comment faire son deuil, tout ça, mais dans des univers où il y a du fantastique et où il y a ou des ovnis, ou des aliens, ou des super héros, pour qu'en fait l'attention, l'imaginaire soit vraiment stimulé au premier plan par ce monde à comprendre, et après derrière en tâche de fond, bah ça nous raconte nous les humains, et c'est ce qui me touche le plus chez les auteurs, en fait, je crois, c'est les gens qui savent raconter les humains dans leur complexité, et il y en a, hein, qui le font à merveille. Mmh. Je pense à Fleabag, je pense à White Lotus, je pense à Fab Caro, et oui, toute son œuvre, tous ces gens qui arrivent à décoder les rapports humains avec toute leur subtilité, leur complexité, en étant marrants, généreux, ouverts. Donc je suis pas du niveau de ces gens-là, mais en tout cas avec HeroCorp j'ai vraiment fait ça, j'ai vraiment raconté ça avec mes copains, on tournait avec 2,50 balles, mais on le faisait avec une conviction telle, on avait tellement envie de le faire, on était tellement heureux de se dire on a un espace de liberté, on le prend et on le lâche pas. Donc je suis très heureux que ça ait touché des gens, parce que l'histoire globale que ça raconte, c'est qu'en fait tu te dis mais il y a de la place, et depuis il y a eu les réseaux, depuis il y a eu YouTube, depuis il y a eu tout ça, où en fait il y a plein de gens qui se sont exprimés vraiment sans passer par
les médias généralistes ou les chaînes traditionnelles.
Exactement, qui vont venir se mettre entre ton propos et ce qu'ils
imaginent. Mister V est un bon exemple, en fait.
Exactement, exactement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très très peu de gens qui le faisaient, et il y a eu une communauté qui s'est créée, il y a des gens qui se recevaient les uns les autres. Quand on faisait une dédicace à Nantes, il y avait des fans de Rennes qui logeaient chez des potes à Nantes. Oui, il y a eu des enfants qui sont nés des records avec les prénoms des personnages, des tatouages, des mariages. Il y a eu tout ça. Et en fait, ces gens font partie de ma famille. En fait, dès qu'on se recroise quelque part, il y a un truc qu'on a vécu ensemble qui est très intime et complètement unique.
On parlait d'une série, donc même si effectivement tu racontais les humains dedans, il y avait aussi évidemment un rapport avec les super-héros. Là, MacWalter, c'est une comédie d'action, ce sont quand même des genres qui sont peu adressés en France. Il y en a très très peu de films avec des super-héros en France. Pareil, on a peu de films d'action globalement, c'est moins notre culture. Il y en a quelques très bons, notamment un de tes amis de collège, Albon Lenoir, qui est devenu une des figures du cinéma d'action à la française moderne, en tout cas, mais globalement c'est assez rare. Est-ce que toi t'avais une frustration justement, et est-ce que c'est aussi ce qui explique que lorsque tu t'exprimes au cinéma, dans les séries, t'as une forme de mélange entre d'un côté une forme de cinéma d'auteur français et en même temps une envie de divertissement à l'américaine. J'ai le sentiment qu'il y a aussi ça chez toi, cette envie d'aller aussi un peu faire comme les Américains que tu regardais quand t'étais gamin, en fait.
Mais après, sans faire le vieux gars qui vieillit, nous, on a vraiment grandi avec ce qui nous arrivait en VHS, tu vois. Et puis il y a eu le début du câble et tout. Donc c'est vrai que On a été biberonné à cette forme de narration-là, à un cinéma américain qui mélangeait beaucoup le genre dans les années 90. Quand tu penses à, effectivement, Ghostbusters, Gremlins, Famille Adams, ce sont des choses qui sont fortes en univers, très singulières et tout. Donc c'est vrai que on a grandi avec ça comme modèle. Donc moi, c'est vrai que dès que j'ai pu faire mes trucs à moi, J'ai adoré dans la famille Adams le fait qu'il raconte sa propre famille, et que ce qui en ressort, c'est qu'ils sont marrants, c'est qu'ils sont chelous, c'est qu'ils sont glauques, c'est qu'ils sont machin, mais en fait c'est son trauma de famille, c'est sa famille qu'il raconte, et ça, je crois que ça m'a touché, et ça permettait d'avoir, en fait, je trouve que le genre permet déjà l'écriture en général et l'écriture de genre te permet de pouvoir t'exprimer avec un champ tellement plus large que le dialogue concret quotidien qu'on peut avoir dans la vie. L'écriture te permet d'avoir 1000 couches de plus, et le genre te permet de le noyer dans quelque chose qui n'est pas trop littéral aussi. Donc oui, on a enfin, moi je sais que j'ai grandi avec ces films là que j'ai toujours un truc, des petits hommages que je rends dans tous mes projets à cette époque là aussi. Et en France, il n'y a pas forcément ça. Je ne sais pas aussi. J'ai l'impression que les super-héros aux États-Unis font partie de la culture. C'est un pays récent. Il y a même des super-héros qui sont nés pour des raisons politiques. Donc en fait, c'est une mythologie en fait équivalente moderne à l'Amérique. Alors que nous, on a une histoire qui est beaucoup plus ancienne. Bien sûr. Donc tout ce qui est plus récent, on a tendance un petit peu à s'en moquer. En fait, j'ai l'impression que le premier degré, moi je me souviens sur ma série HeroCorp, quand j'avais un comédien qui devait dire, en gros, c'est ton destin, ta destinée, machin et tout, il me disait, mais gars, je peux pas dire ça. Ouais. Je dis, mais dis-le avec sérieux, je t'assure. Mets de la conviction là-dedans. Comme quand tu fais une vanne la plus débile qui existe, mets de la conviction, mets du sérieux. Parce que c'est vrai qu'on a ce truc de se regarder un peu, parce qu'on a ce cynisme-là, on a cet humour-là, cette distance-là qui fait que parfois, on n'ose pas être premier degré de peur d'être ridicule. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que si la conviction est forte, bah tu suis. Celui qui te raconte une histoire avec beaucoup de conviction, oui, quelle qu'elle soit, même si
t'y vas,
même si c'est pas un truc qui te parle, moi, n'importe quelle personne qui me raconte ce qu'il aime faire dans la vie, même si c'est décoller du scotch des portes, s'il me le raconte
avec passion, ouais.
Ah ouais, en fait, tu suis et puis t'as envie de le faire après avec lui, quoi.
Je propose qu'on écoute un morceau. Mais j'ai été un peu surpris de ton choix de ta réponse alors quand tu m'as dit que ton groupe préféré c'était NTM, car il y a quelques années tu étais ici chez France Inter et tu as parlé notamment du morceau La Saga d'IAM. Donc je propose écoute La Saga, mais est-ce que tu pourrais faire le lancement du morceau? Comment tu présenterais rapidement La Saga? Qu'est-ce qui te plaît autant dans ce classique d'IAM? Donc présent sur l'école du micro d'argent.
Collab absolument iconique et impossible de faire mieux, je pense, entre ce groupe marseillais et le Wu-Tang.
Ouais, et Sons of Men, qui sont effectivement des membres affiliés du Wu-Tang.
Voilà, c'était comme si d'un coup, aujourd'hui, on fait des films qui sortent dans le monde entier grâce aux plateformes. Mmh. À l'époque, on était vraiment enfermés chez nous avec des petites frontières très très proches. Et là, d'un coup, on se disait, waouh, c'est
incroyable. On touchait du doigt l'Amérique
c'est
et l'Amérique.
Et c'est, et ils valident notre groupe de rap incroyablement iconique. Donc c'est un morceau, je pense, qui ne vieillira jamais. C'est le flow absolument gracieux d'Akhenaton et de... C'est un mélange parfait, un mélange des cultures, un mélange des origines du rap et de la musique. Ce n'est que du bonheur.
I am Sons of Men, La Saga.
Yo, I am Sons of Man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn.
In the beginning there was darkness, then came light. I grabbed the mic, then dish your ass just for spite. What? You can't fuck with the flows I bring. Watch the staff I swing. It's Timbo King, astonishing. I'm dramatic to the ear. Television tells lies to your vision. So beware of the trick. Knowledge set forth to fool the mind. If you're dumb, you're lost. If you're wise, you will find that poison is a devil substance. Made for scratch, cause one rotten apple destroys the whole batch. You scratch, I throw jabs to your jaw so quick. You get bashed in the head with a stone-faced brick. Went thick like molasses, deeper than the earth's mantle. Roy, you take over, stampede, trample those who force teach. Tell lies to the youth, I branch out, my roots run deep. Here's proof, what?
À 17 ans, je me suis fait une raison. J'étais un petit con, un nerveux spasme. Mon fil de baston et je frappais un coup de pied dans la table. Volé, envelimé par la négativité. Tant d'échecs, tant de défaites, on forgeait le mordant pour encaisser les coups de ma mentalité. Fauché sans occupation, il n'y a pas pire. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. J'ai persisté, dit des trucs vrais et été épisté. J'ai insisté et le groupe Payama a existé. Pour de bon, j'étais sincère, j'écris des vers pour mes pères. Et il n'y a que qui flippe derrière de l'attention, ils se foutaient. Donc j'ai roulé pour ma poire comme le gaz. Les intouchables faces de mes phrases, j'ai même changé d'avis pour la saga. C'est plus j'y revenais quand tu allais, j'y retournais.
I am Sons of Man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am Sons of Man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am Sons of Man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am Sons of Man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn.
I'm blowing niggas out the frame. Now what's my motherfucking name? I'm playing niggas like a boy game. You can't fuck with the drunk Dreddy Krueger. Blam, blam. Two slugs for my Ruger and I'll move ya. I write rhymes when I'm sober, say it when I'm drunk. The Buddha monk got the skunk. Yo, I smoke niggas like kryptonite blunts. Dog bitches like Snoop, fuck them on my stoop. Then yo, I step the gates and troop to see my nigga, the jizzer who had my bulletproof. Vest for my chest to relieve some of my stress. And now I'm safe from my neck to my waist. But still I gotta worry about a nigga catching me in the face and beat the case just cause he had pace.
Get it straight.
Yo,
gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. La route vers le but fixé est longue et périlleuse. Souvent bordée de tavernes aux enseignes lumineuses. Et c'est dur de résister à l'invitation, de rester posé sur le rail comme un wagon. Telle une flèche filée, droit sur la cible, ignorer les ragots est la seule solution possible. Le temps passe trop vite pour que j'y prête une attention quelconque. Je sais qu'en fait, tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. Partant, je roule pour moi, fils, tant pis pour les autres. Si la médisance est leur hobby favori, je suis sorti de cette période néfaste où tu te prélasses. En attendant que tout se fasse, j'avance fort de mes expériences passées. Je souris en voyant ceux qui s'empressent d'y aller.
I Am La Saga, un classique issu de l'album L'école du micro d'argent.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Nous sommes avec Simon Astier pour la sortie de Mac Walter qui sort cette semaine. Et il y a d'autres sorties cette semaine. Et comme à chaque fois, j'aimerais faire un petit point de quelques films qui ont retenu mon attention. Tu me diras si ça t'inspire. Et on a choisi trois films très différents qui disent bien à quel point le cinéma, ça peut être large. De l'horreur surnaturelle au drame aristocratique jusqu'au documentaire décalé. On commence avec des démons et on termine avec Charlie Sheen. Et justement, tout de suite, c'est Conjuring, l'heure du jugement. Nouveau volet de la franchise initiée par James Wan, centré sur les enquêtes surnaturelles d'Ed et Lorraine Warren.
Dans votre maison, c'est un démon. C'est le premier qu'on ait jamais rencontré. Nous étions jeunes et nous avons eu peur. On a renoncé. Et après toutes ces années, il n'en avait pas fini avec nous.
Dans le titre du film, on parle de jugement. La Promesse est un film plus sombre, presque apocalyptique, avec l'idée d'un procès final du bien contre le mal. La saga Conjuring a rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office et est devenue une des franchises d'horreur les plus lucratives de l'histoire. Anecdote, Patrick Wilson et Vera Farmiga, qui incarnent les Warren, sont désormais de véritables icônes du genre horrifique. À noter également que Ed et Lorraine Warren ont réellement existé. Et on enchaîne avec Downton Abbey 3, troisième et dernier long-métrage qui conclut l'histoire de la famille Crowley et de leur domaine après 6 saisons cultes, pardon, et 2 films.
Bienvenue à Downton, mon cher frère.
Cora.
Les nouvelles ne sont pas bonnes, n'est-ce pas?
Comment le sais-tu?
Je te connais depuis que tu es né.
Harold a vraiment déçu toutes nos attentes.
Ne voyez-vous pas ce que cela implique pour Downton?
On se retourne sur le passé et l'on songe aux changements auxquels on a assisté.
Tu es la fille que j'ai jamais eue.
Je vais chérir ces mots.
Si maman était encore en vie, que ferait-elle?
Longue vie à Downton Abbey. Ainsi soit-il.
Et on retrouve tous les personnages phares avec l'idée d'une grande conclusion. Intrigue familiale, lutte de classe, amour contrarié. Downton Abbey, c'est plus qu'une série, c'est un phénomène culturel britannique diffusé dans plus de 250 territoires. Anecdote, la série a inspiré des visites touristiques records au château de Highclere, là où elle est tournée. Et on conclut avec « Qui est Charlie ?» Tout sur Monsieur Sheen, documentaire consacré à Charlie Sheen, l'acteur culte de Platoon, Wall Street, Hot Shots et surtout de la sitcom Mon Oncle Charlie.
There's only one person alive that has the answers to so many people's questions about me. And that's... Fuck it, somebody call action.
He's going the distance. He's going for speed.
You wanted to like him because he was
lovable, brilliant,
handsome,
charming, and smart.
Charlie's a crybaby pussy bitch.
No.
Because he's going the distance.
C'est donc l'histoire d'un homme qui a tout eu, gloire, argent, succès télévisuel énorme et qui a aussi tout perdu entre excès, scandale et descente aux enfers. Le film promet de montrer à la fois le génie comique de l'acteur et ses démons personnels avec des témoignages inédits. À son apogée, Charlie Sheen touchait 1,8 million de dollars par épisode de Mon Oncle Charlie, ce qui en faisait l'acteur le mieux payé de la télé. Le documentaire sera disponible sur Netflix. Est-ce qu'il y a un de ces trois films qui te tente ?
Le dernier.
Ouais,
ça, ça m'inspire.
Ouais.
Ça m'inspire. On a grandi dans une époque où il y avait plein d'artistes un peu comme ça, avec des destins un peu fracassés. Et beaucoup de tendresse.
pour ces destins cabossés.
Ouais. Même plein. Il y a eu tous ces chanteurs aussi qui nous ont tellement inspirés. Enfin, ouais. Je suis très, très curieux de voir son histoire.
Très bien. On est avec Simon Astier pour parler de Mack Walter. Simon, je te propose un petit jeu.
Oh là oui.
T'es fan de super-héros ?
Ouh là là, bah ça dépend.
Ça dépend de...
ça dépend des... Oui.
Pas des films, je parle du concept. Tu les aimes bien ?
J'aime bien les super-héros.
Alors oui, je te propose un... Tu sais ce genre de jeu qu'on voit sur les réseaux ? Je te donne deux super-héros, tu me dis lequel tu gardes et on verra...
Ah oui, lequel je garde.
Lequel tu gardes et à la fin, lequel est le plus grand super-héros de tous les temps, selon toi.
Ok, très bien.
Je commence en mettant en duel Superman et Spider-Man.
Spider-Man.
T'aimes pas Superman?
Ah, ça m'emmerde. Mais il tout va bien en fait pour Superman. Il va vraiment très très bien quoi. Tout le temps quoi. Donc en fait.
Puis il est trop fort en fait.
Oh là là, oui. C'est pas du tout. Il manque de. Il va trop bien pour moi.
T'as vu le dernier de
James Gunn? Oui. Wow. Bah du coup, ce qui est super intéressant, c'est que dès le début, il saigne dès le début. C'est-à-dire que je pense qu'il a pressenti que c'était trop invincible, c'est pas mal. Donc en fait,
il le met en difficulté tout le film.
Ouais. Ah, il est pas bien, mais même pas bien, il va quand même trop bien pour moi.
Spider-Man ou Iron Man?
Iron Man.
Ok.
Pour le charme.
Ouais. Pour Robert Downey Jr. ou c'est plus globalement le super-héros même avant les films?
Non, mais en fait, je m'identifie peut-être moins à l'ado qui est Spider-Man et plus à cette espèce de mec qui vit
Au quadra multimillionnaire, ça te parle. c'est toi.
En tout cas, j'ai envie de m'identifier à ça pour vraiment changer de direction dans ma vie, tu vois.
Iron Man ou Flash?
Iron Man.
Iron Man ou Wonder Woman?
Wonder Woman dans 4 films quand ils continueront de lui faire un vrai personnage cool et on a hâte.
Mais le premier avec Gal Gadot était pas mal, je trouve. Le deuxième était catastrophique.
On sent que voilà que maintenant ils sont en train de faire quelque chose des personnages féminins et c'est le moment. Mais je pense dans 4 films ça sera vraiment super intéressant.
Iron Man ou Batman?
Oh, Batman.
Bon, est-ce qu'on continue à jouer ou est-ce que Batman va forcément gagner?
Mais Batman va tout gagner.
Ok. Pourquoi alors? Pourquoi Batman?
Parce que c'est la sublimation de la tristesse de l'enfant. Moi, c'est ce qui me touche le plus. C'est une grande leçon. C'est l'inverse de Disney où dans Disney le héros et l'antagoniste ont la même problématique et le héros, on va dire, sublime ça et l'antagoniste se perd dans ses démons et en fait devient mauvais. Ce que j'aime dans Batman, c'est que c'est un héros qui porte cette ambivalence là. C'est pas du tout polarisé. En fait, j'avoue que c'est chouette d'avoir des héros complexes comme ça.
Et nuancés.
Ouais, parce qu'en fait, ça devient crédible. Ça devient crédible à quel point la souffrance peut influer sur ton existence. À la fois comment tu trouves la manière de le sublimer, mais tout en ayant ce fond de nostalgie, de poésie, de souffrance. Je trouve que ça lui donne du charme, ça lui donne de la profondeur. Et moi, j'étais moins sensible au Batman de Nolan. Mais là, le dernier, j'ai adoré parce que justement.
T'as beaucoup aimé le Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le titre.
Et pourtant, je partais pas forcément avec un a priori de fou, mais j'étais hyper touché justement par encore cette noirceur, cette gravité. Comment est-ce qu'on lutte contre ce qu'on a à l'intérieur pour essayer de devenir meilleur tout en étant en galère avec ce qu'il faut dealer à l'intérieur de soi. Je trouve que c'est un personnage, moi, qui m'a touché, bouleversé étant enfant et qui continue de me toucher parce que j'ai l'impression que ça nous raconte vraiment dans la vraie vie. Et la sublimation qui est quand même digérer, grandir après quelque chose de traumatisant. Personne ne la raconte finalement, et lui, il la raconte à travers le fait de sauver les autres, à travers le fait de devenir cet avatar. Mais j'aime bien qu'on parle de ça.
Voilà. Quand t'es enfant, tu le découvres avec les films de Burton ou plutôt avec les dessins animés des années 90
Les films de Burton, et après les dessins animés. Ouais, okay. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans les films de Burton, c'est que c'était un gars, j'aurais adoré bouffer avec. Il avait ce côté sombre, il avait ce côté aussi. Ce qu'ont les gens cassés, c'est qu'ils ont aussi du charme et qu'ils ont aussi de l'humour, un certain humour et une mélancolie en même temps. Voilà. En fait, je comprenais ce personnage et même je me disais, ouais, moi c'est cool si les trucs qui nous arrivent, on arrive à quand même devenir cette forme d'adulte-là,
et
ça
puis,
marche.
Même, c'est intéressant, parce que c'est vrai que même dans le choix de l'incarnant, Michael Keaton, Michael Keaton, c'est quelqu'un auquel tu as l'impression que tu peux t'identifier. Il n'est pas aussi impressionnant et rempli de musculature que les gens qui vont l'interpréter après. C'est quelqu'un qui te semble... Et Robert Pattinson a aussi ça en commun, t'as raison, il a l'air un peu frêle dans son interprétation de Batman. J'imagine que dans les prochains, il va sûrement prendre en muscle parce qu'il grandit, etc. Mais peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont plus humains et accessibles, peut-être, que ce qu'on imagine traditionnellement du super-héros.
Il est complexe, en fait. Ouais. Il est complexe. Il est pas... En fait, c'est vrai que tout ce qui est très 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 tranché d'un côté ou de l'autre m'intéresse moins. J'aime bien qu'un personnage, on se dise c'est le héros, mais il est à deux secondes d'être le méchant. Et il est autant un danger pour lui-même qu'une sécurité pour les autres, et inversement parfois. Et ouais, je pense que ce genre de personnage là nous raconte vachement mieux les humains que les très 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 méchants et les très 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 gentils.
Alors je vais pas comparer Mac Walter à Batman, c'est deux personnages différents, mais finalement Mac Walter, il est aussi un peu, c'est-à-dire qu'il est... C'est un héros, mais il est aussi à la fois extrêmement dangereux. Il se fait aussi du mal à lui-même. Il a aussi ça. Après, c'est parce que c'est aussi un personnage qui est comique, etc. Mais c'est un héros qui est loin d'être parfait aussi.
Exactement. Et puis surtout, c'est un personnage qu'on découvre avec une outrance totale, une espèce de surconfiance en lui. Vraiment, il arrive sur une scène de crime en faisant un drift. Donc, il y a rien qui va. Et en fait, ça, c'est aussi, moi, c'est ma petite touche que j'ai mis et mes proches ont tout de suite vu. Ah, ça, c'est toi. C'est que j'ai raconté là aussi la légende de Mac Walter, son histoire. Il y a un passage dans le film qui est plus de l'ordre de en fait on comprend pourquoi est-ce que ce type, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il soit à ce point-là déconnecté de la réalité, au point de se sentir surpuissant et de décider quand même malgré tout de sauver le monde. C'est qu'il avait un truc à sauver, voilà. Et en fait c'est ça aussi ce qu'il fallait qu'on mette dans ce film, c'est comprendre pourquoi les gens sont ce qu'ils sont, comprendre ce qu'ils ont à vaincre à l'extérieur, à l'intérieur aussi, tu vois, et ça fait des histoires qu'on a envie de suivre. Et Mac Walter, il est très marrant, il est complètement bordélique, il fait n'importe quoi, il a son propre phrasé, rien n'est simple. Quand il doit faire un chemin de A à B, il va essayer de faire le plus de show entre A et B. Mais on l'aime pour des raisons qu'on va apprendre dans le film plus tard, et c'est ce que j'aime aussi dans ce film.
Comment s'est passée l'écriture ? Parce que Mr. V, c'est son personnage à la base, donc j'imagine aussi qu'il avait extrêmement beaucoup d'idées. Toi, t'arrives dans l'aventure et t'es aussi scénariste en plus d'être réalisateur. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été compliqué parfois ou ça a été assez fluide ?
Bah, c'est forcément compliqué au début parce que avec Yvick, lui, il paraît pas, mais il est très timide et c'est un gars très sensible. Comme moi, donc en fait, on a vraiment passé du temps à se tourner un peu autour et à se renifler avec des petites politesses. Il écrit avec Vincent Tirel et Freddy Gladieux, qui sont ses compères de toujours.
Qu'on voit dans le film d'ailleurs, les deux.
Bien sûr, bien sûr. Et ils sont absolument champions dans ce qu'ils font. Et en fait, quand il fallait l'amener sur un film avec une histoire, avec une narration, une dramaturgie et tout, en fait, c'est ça qu'ils m'ont demandé, moi. Donc en fait, j'arrivais pas sur leur terrain. J'arrivais sur un terrain où je prenais les trucs et je disais, ben voilà, mais du coup, ça, on pourrait le mettre dans ce sens-là. Et puis ça pourrait venir de ça. Et du coup, ça, on pourrait le rappeler à la fin. Et en fait, du coup, on s'est tous mis à notre place naturellement. Et je pense que... Je pense qu'ils ont aimé ce que j'ai amené. Moi, j'ai trouvé marrant comme jamais j'ai vu des gars marrants. Donc en fait, il y a eu un truc de bon ben. En fait, on a une team où on est tous à notre poste. Je pense au bon endroit. Donc ce qui a été le plus dur, ce n'est que le de braver la timidité. Et puis quand on a été habitué à créer des univers seuls. et à développer sa propre singularité, de faire un pas l'un vers l'autre avec Yvick. C'était pas le pari gagné d'avance, mais c'est ce qu'on a fait en se disant, et surtout, moi, je raconte toujours ça parce que ça me touche et que on a tourné en Bulgarie, dans des décors américains, loin de chez nous, machin et tout. Et le dernier plan du film, c'est on filme un truc sur lequel il y a marqué à deux on est plus fort qu'un. Oui. C'est le dernier plan du film qu'on a fait en Bulgarie. Et en fait, on s'est rendu compte de ça en rentrant en France le lendemain. On s'est dit, gars, en fait, non seulement dans le film, ça a une place hyper importante, mais nous, ça résume ce qu'on a vécu depuis deux ans. Et en fait, j'en ressors de ça, de me dire, putain, on a, ouais, ouais, on s'est, malgré nos petits côtés, petit chat dans son coin, on a réussi à être ensemble et à être ensemble beaucoup plus fort et beaucoup plus ouais. Ardent dans ce qu'on racontait.
À deux, on est plus fort qu'un.
Hein. Eh oui, c'est ça.
Maintenant, c'est ça qu'on va tatouer. On écoute un nouveau morceau, Changement d'ambiance, avec Celia Wa, un morceau hybride à la croisée du reggae, du jazz et de la soul, porté par une voix magnétique, un son engagé et planant à la fois. Voici Soulja. D'écouter Celia Wa avec le morceau Soulja. Je suis avec Simon Astier. Et Simon, je le dis comme ça, c'est l'heure de la question qui tue.
Au revoir. C'est terrorisant.
Ça l'est. Hein. Tu vas voir, la question, elle est encore plus.
Ah non.
Simon Astier, oui. Nous parlions de comédie d'action. J'aimerais une réponse claire. Est-ce que Die Hard 1, Piège de Cristal, est la plus grande comédie d'action de tous les temps? Je te l'avais dit. Moi, la question qui tue, je tue vraiment.
Je pourrais dire oui. Non, mais j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui. Et parce que si on définit l'action à ces frontières-là, ouais, quand même, quoi.
Ça pourrait se taper avec qui, selon toi?
Le 3.
Ouais, voilà. C'est entre Die Hard et Die Hard. C'est entre Piège de Cristal et Une Journée en Enfer, en réalité.
le 3 et à la fois Retour vers le futur, c'est quand même une comédie d'action, ouais, tu vois. Mais il y a action, mais on met un petit pied quand même dans le dans la SF.
Oui.
Mais oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais le 3 quand même, il se tape quand même pas mal.
Ouais. Hein. Oui, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps, tu sais, le 3, qui date de 95, si je ne dis pas de bêtises, et qui vieillit extrêmement bien. Et il y a aussi quelque chose, et je ne veux pas non plus passer pour quelqu'un de trop nostalgique, mais ce n'est pas rempli de CGI et d'effets spéciaux. Ouais. Tout est réel. Ouais. À un moment, le métro déraille réellement. Il y a quelque chose comme ça qui, effectivement, qui est un cinéma qui aujourd'hui est presque devenu un peu désuet, mais qui fait du bien à revoir. Et en plus, c'est réalisé par John McTiernan, qui est quand même si maintenant c'est un peu compliqué pour lui, mais qui est un grand réalisateur de cinéma d'action. Il a fait quelques chefs-d'œuvre, Predator, voilà.
Bah oui, moi en tout cas c'est dans mes rêves absolus, Predator, ouais. Mais puis il y a un principe de tension dramatique tout de suite qui fait que en fait ouais, c'est je pense que c'est ça aussi le secret du la comédie d'action, c'est qu'en fait nous ce qu'on a essayé de faire, c'est que vraiment à chaque fin de séquence, il se passe un truc et qu'il y a un coup de volant narratif, vraiment littéralement un coup de volant, qu'on se dise ok, maintenant on part là-bas chercher ça. Et dans Die Hard 3, il y a ce truc de on est pendu à eux tout le long.
Ouais. C'est Bruce Willis et Samuel Jackson qui jouent un buddy movie extraordinaire magnifique. Dans Une journée en enfer. Simon Astier, c'était un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui.
Merci
vraiment.
Beaucoup.
On rappelle que McWalter donc sort cette semaine sur Prime Video. Merci à Simon d'avoir été là. Merci d'avoir joué le jeu. Et merci à toutes les personnes qui ont préparé cette émission. Alexia Lacour et Redouane Tella. Une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, Alex Olarewaju Otinois. Merci aux équipes web et vidéo. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.